CFM, le mag, tous les jours,
12h, 12h30.
Il existe des écrivains qui font leur travail sérieusement. Quand ils veulent situer une action, eh bien, souvent ils la situent dans des lieux qu'ils connaissent, parce que c'est, j'allais dire, plus facile. C'est toujours difficile d'écrire, mais de décrire des endroits, c'est quand même mieux de les connaître, à moins de les inventer complètement. Il y a plus d'un an, nous avons rencontré Dany Boisset qui, sur le territoire du Quercy, venait faire du repérage. Alors souvent, c'est un terme qu'on imagine cinématographique, essayer de trouver des décors naturels. Dany Boisset est venu en tant qu'écrivain pour situer une partie de l'action de son dernier roman, L'héritage d'une vengeance, qu'elle vient dédicacer, puisque ça y est, cet ouvrage est paru. Alors, Dany Boisset est là dans nos studios, bonjour.
Bonjour, Joanne.
Est-ce que c'est complètement un roman, L'héritage d'une vengeance ?
Oui, je vois où vous voulez en venir. Est-ce qu'en fait c'est mon histoire ? Est-ce que c'est l'histoire de quelqu'un ? C'est ça que vous voulez dire ? Non, c'est vraiment du roman. Sauf qu'il y a quelques personnages à qui je fais dire et faire des choses, avec leur autorisation bien sûr, des personnages qui existent vraiment. Mais à part ça, à part les lieux qui sont vrais eux aussi, eh bien toute l'histoire est du roman.
Alors ce qu'il y a de remarquable quand on lit ce roman, c'est que, c'est une rupture par rapport à ce que vous écrivez d'habitude.
Ah oui, alors là, complètement.
C'est-à-dire que les personnages de ce roman ne font que des choses qui peuvent arriver dans la vie. Il n'y a pas des super-héros avec des courses de voitures, avec un Sherlock Holmes qui résout une énigme. C'est de la vie.
Ah oui, oui, oui.
Or, c'était pour en venir quand même à ça, c'est que Dany Boisset, vous avez écrit plusieurs ouvrages, comment vous dites-vous, de terroir, non ?
Non, là, celui-ci est un terroir. Mais ce que j'écris d'habitude, c'est du roman policier, ou comme on dit par là dans mon pays, du polar catalan.
Ah ouais, le polar catalan est un genre que ici nous ignorions. Dites-nous en deux mots, parce que effectivement votre éditeur édite des auteurs, il faut que ça se passe là, quoi.
Oui, absolument. Alors vous savez, il y a eu peut-être une vingtaine d'années en arrière un phénomène dit de polars régionaux. Je crois que ce sont les Bretons qui ont commencé avec le polar breton. Il y a eu le polar marseillais, le polar alsacien, presque toutes les régions de France ont leur polar. Et la région autour de Perpignan étant la Catalogne, Catalogne Nord par rapport à la Catalogne Sud qui est en Espagne, a eu eux aussi, donc ils ont eu la naissance de leur polar, le polar catalan. Donc mes romans policiers, dits polar catalan, ont lieu tous à Perpignan.
Et ce sont des enquêtes menées par un officier de police,
une héroïne qui est récurrente, que l'on retrouve, elle et son équipe, dans tous mes romans.
C'est votre Maigret à vous.
Il y en a quatre. Oui, ou ma Miss Marple plutôt.
Ouais, Miss Marple, et alors, pourquoi Catalogne, vous n'êtes pas catalane ?
Non, seulement d'adoption. Parce que comme on a dû quitter cette belle région qui est la vôtre, qui est Luce, et Saint-Projet où j'habitais, Saint-Antonin aussi, on a dû quitter pour des raisons de santé. Mon fils a dû partir en Sana, dans les Pyrénées. Donc on a voulu être près de lui, donc on est parti d'ici, on est allé s'installer dans la région de Perpignan pour être plus près de lui pendant qu'il était en Sana. Et je suis devenue une catalane d'adoption.
Ah oui, alors comment on devient catalane pour un éditeur qui ne veut que du roman catalan ?
Mais il faut aimer la région. Et je l'aime beaucoup, c'est vrai. Il fait beau, il y a beaucoup de soleil, il y a la plage, mais la montagne aussi, des villages anciens, mais la ville très moderne de Perpignan. C'est un joli coin à vivre. J'étais tellement triste de partir d'ici, mais finalement je me suis fait à la Catalogne et j'ai plongé dedans.
Il y a plusieurs années de ça.
Ah oui, 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 il y a de nombreuses années maintenant.
Alors vous êtes quelqu'un qui avait bourlingué, parce que vous avez quitté Saint-Projet pour vous installer en Catalogne, mais encore avant d'arriver à Saint-Projet, où étiez-vous ?
Aux États-Unis. Oui, c'est vrai, ça fait un peu loin. Et j'étais partie là-bas tout bébé, parce que mes parents, des Tourangeaux, près de Chenonceau d'ailleurs, hein, c'est entre Chenonceau et Amboise, sont partis émigrer aux États-Unis. Alors évidemment, je faisais partie du voyage et les 30 premières années de ma vie, je les ai vécues près de New York.
Alors, tout à l'heure, on va parler de votre dernier roman, hein, Souvenirs de France, la manière d'éditer, et ça s'appelle L'héritage de vengeance. On va voir que si c'est romancé, c'est des choses de la vie, hein, qui arrivent à Sylvie et qui sont arrivées à Odette. Mm-hmm. Mais vous savez ce que c'est que la radio, mais aussi de la musique.
Entre les barques, quand passe le monde, no du la fúria de crits ni besades, l'amor que passa a la vora del mar és blau verdós i flexible com l'aigua. Perquè a la platja hi arribi l'amor hem de tenir una miqueta de calma i una gavina pel cel a dormir, una gavina i una aigua ben blava. L'amor que passa a la vora del mar vol que tot just es bellugui la barca, vola la vela una mica de vent, però té por de sentir les onades. Vol una galta que es deixi besar, però que hi posi una certa recança, l'amor que es diu a la vora del mar és un amor de molt poques paraules. Entre les barques quan passa l'amor no vol ni plors ni gemets ni rialles, l'amor que passa a la vora del mar és un sospir que batega com l'aigua.
CFM, le mag, tous les jours,
12h, 12h30.
On est toujours en compagnie de Dany Boisset qui va dédicacer son dernier ouvrage, L'héritage d'une vengeance. Alors on terminera en disant complètement les lieux, mais enfin en gros vous allez à Caïlus dédicacer à Val-de-Bonnette, puisque c'est là que ça commence, votre histoire,
donc
à la résidence Val-de-Bonnette. Puis vous viendrez mardi, jour de marché à Caïlus, chez Madame Baroul, qui aura votre livre en dépôt. Entre temps vous serez allé à Najac.
Oui, en effet.
Vous irez à Villefranche de Rouergue, votre livre sera en dépôt à la librairie de Loche. Enfin bon, voilà, c'est un livre où on peut retrouver des champs fleuris entre Saint-Antonin et Caïlus. Vous avez de très belles descriptions, on sent que vous vous êtes arrêté, que vous avez regardé.
Ah ben oui. Ce sont des souvenirs enfouis, mais que j'ai retrouvés quand même l'année dernière, quand je suis venue faire ce fameux voyage de repérage, comme vous avez dit tout à l'heure. Et je suis venue justement à l'époque où les jonquilles et les narcisses sortaient sur le bord de la Bonnette. Alors, ça a été merveilleux pour moi de revoir ça. Et forcément, je l'ai inclus dans mon histoire, le fait qu'il y avait tellement de jonquilles.
Alors, la première héroïne de votre ouvrage, parce que curieusement, il y a deux vies d'héroïne, mm-hmm. si on peut dire héroïne, mm-hmm. au sens oui. où c'est elle qui parle, c'est elle qu'on voit. Elle s'appelle Sylvie, elle est aide-soignante à Val-de-Bonnette,
oui.
elle habite à Saint-Antonin, donc mm-hmm. effectivement, on peut cueillir des narcisses au passage pour les offrir à sa meilleure amie, qui est une résidente de Val-de-Bonnette, qui est nonagénaire, avec qui il y a une complicité,
telle que
c'est décrit, donc elle lui rapporte des narcisses. Et cette Odette-là a envie que Sylvie lise un livre.
Oui.
Voilà.
C'est ça, le début de l'histoire.
Sans lui dire ce que c'est, ce livre, c'est que, voilà, j'aimerais bien que vous lisiez ça.
Mm-hmm.
Et alors, bon, elle n'a pas le droit de sortir quelque chose qui appartient à une résidente. Bon, finalement, elle veut bien jeter un œil, mais bon, on sent que ce n'est pas une préoccupation. Et mm-hmm. puis, Odette meurt.
Oui.
Bon, alors là, ça c'est pré-générique.
En fait. Ah oui.
Sylvie est aide-soignante, il y a Odette qui a 90 ans, qui veut qu'elle lise un livre, et elle meurt, et paf, maintenant générique, l'héritage de vengeance. Mmh. Tout va commencer quand Sylvie va lire, en fait, ce qui n'est pas un livre,
non.
c'est le journal.
C'est son journal.
De la jeunesse d'Odette.
Oui, oui, elle raconte sa jeunesse, oui. Et là, Sylvie va tomber de haut parce que... Elle va apprendre des choses extraordinaires, de belles choses, mais aussi des choses absolument affreuses.
Alors là, on est dans une autre région, qui est la région d'origine d'Odette,
oui.
qui dans une famille rurale.
Très rurale, oui, oui,
alors,
tout petit village.
Gros malheur dans cette famille, il y a beaucoup de fratries, et en même pas deux ans, c'est affreux, quoi. Elle se retrouve quasiment seule. Alors, c'est les années 30.
Oui. Sa jeunesse, effectivement, son enfance, c'est les années 30. Mais elle part de cette région-là, qui est la sienne, qui est la Haute-Saône, en fait, la Franche-Comté, la Haute-Saône. Elle part, comme beaucoup d'autres personnes, des milliers, voire des millions de personnes sont sur les routes, parce que c'est la débâcle. C'est la grande exode. Les Allemands arrivent et il faut partir. Et j'ai appris que beaucoup de réfugiés qui étaient venus dans le Tarn-et-Garonne, en fait, venaient de la Haute-Saône. C'est pourquoi j'ai choisi cette région-là pour la faire arriver ensuite ici, pour qu'elle passe après tout le restant de sa vie ici.
Alors, de la même manière que vous décrivez nos paysages du Quercy, la Haute-Saône, on voit les villages, on voit l'auberge, un carrefour de deux routes, on voit cette vie de à la fois fille de ferme, si on peut dire, qui n'a pas la place de rester à la ferme, on n'y gagne pas assez sa vie, et qui va être placée, qui va avoir le travail, quoi, en pleine adolescence, pour travailler. Un travail, changer les draps dans un petit hôtel restaurant, dirait-on aujourd'hui, à l'époque c'est une auberge.
C'est une auberge.
Un ancien relais de poste, pratiquement.
Et on plaçait les jeunes filles comme ça, bonnes à tout faire, on disait, alors chez de riches bourgeois ou bien dans des commerces. Les garçons étaient plutôt placés en apprentissage chez des artisans, mais les jeunes filles... atterrissait souvent comme ça, comme bonne, quelque part.
En attendant de trouver un mari.
Ah oui, c'était en espérant, oui.
C'était quasiment ça, la personne.
Ah oui, oui.
Bon, et alors, vous vous permettez dans l'écriture, puisque là, on est dans la vie d'Odette, racontée par elle-même.
Oui, c'est son journal, donc elle écrit tous ses souvenirs de jeunesse.
Et alors là, il y a un style d'écriture qui fait que c'est à la fois, j'ose pas dire feutré, mais c'est pas cru, c'est un récit.
Oui.
Voilà. Comme si elle savait qu'il fallait le transmettre à quelqu'un.
Oui, oui, absolument. Oui.
Et on a la lecture de Sylvie qui, de temps à autre, réémerge, s'arrête, repart travailler à Val-de-Bonnette, pense à sa propre vie.
Elle a sa propre vie, elle est amoureuse, elle a un amoureux à Saint-Projet, elle travaille à Quélus, elle habite Saint-Antonin, ses parents sont de Montauban. Ils étaient partis de sept fonds.
Pour ouvrir un commerce.
Un commerce, voilà. Donc je décris toute cette région-là, toute cette région que j'ai tellement aimée et où j'ai retrouvé tous mes souvenirs l'année dernière.
Alors évidemment, quand on lit un ouvrage dont une partie de l'action est supposée se passer chez soi, on cherche la faute, l'erreur, l'aberration, etc. Il n'y en a pas.
Ah, mais tant mieux. Non, mais c'est pour vous dire que j'ai quand même pris énormément de notes. Je suis allée tout vérifier. Le cimetière de Saint-Symphorien.
Alors là, le cimetière de Saint-Symphorien, on a envie de le rencontrer, ce vieux monsieur.
Ah, le vieux monsieur. Oui, le
jardin. Ça, par contre, je sais qu'il n'y en a pas. Hein.
Non, là, il fallait que je mette quelqu'un.
Mais c'est vrai
là.
Que les gens qui vont lire cet ouvrage, par exemple, des Montalbanais, auront envie de venir voir ce cimetière de Saint-Symphorien tel que vous le décrivez.
Il vaut la peine d'être vu. J'en ai jamais vu un autre comme celui-là, avec cette espèce de labyrinthe, ces haies de buis entre les tombes.
Et il fallait tenir le peu de terre qu'il y avait là.
Oui. Vous y êtes allé, vous connaissez. Ah, bien sûr, bien sûr.
Revenons à vos personnages.
Oui.
Cette Sylvie est aussi réaliste que la vie d'Odette que vous racontez. C'est-à-dire que Sylvie a des doutes, a des inquiétudes, est horrifiée quand elle tombe sur
Quand
elle tombe sur les événements marquants de la vie d'Odette, elle est horrifiée, elle en parle à son amie, presque ensemble, ils font un travail de réflexion. Il lui arrive aussi des choses à Sylvie.
Ah oui.
Sur ses origines. Les tourments s'entrecroisent. On a des tourments racontés.
Oui, mais c'est ça la vie.
Qui ont 60 ans, qui expliquent l'existence d'un trésor, parce que évidemment, le talent que vous avez, c'est de tenir le lecteur en haleine. Il a envie de tourner les pages pour savoir qu'est-ce que c'est ce trésor, où il est, est-ce qu'on va le retrouver.
Tant mieux.
Et en même temps, moi, je peux pas m'empêcher de penser que vous êtes complètement actuel. C'est-à-dire que les problèmes que vous traitez, qui sont arrivés dans la vie d'Odette aujourd'hui, on en parlerait en termes de résilience. C'est comment on s'est reconstruit à partir d'un traumatisme la vie.
Oui. J'ai essayé aussi d'y miser dans tout ça, certaines choses qui me tiennent à cœur parce que je suis féministe et j'ai voulu parler de la condition de la femme dans les années 30. C'était quand même quelque chose, hein, de difficile.
Enfin, les rapports d'une domestique dans un hôtel avec un homme de pouvoir, je veux dire, c'est complètement d'actualité, c'est pas que les années 30.
Non, c'est vrai. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire quelque chose, on peut se plaindre, on a des gens qui vous écouteront. Mais à cette époque-là, une petite domestique, mais elle avait le droit surtout de se taire.
Avec l'état d'esprit que vous décrivez très bien, d'avant-guerre, où on a tellement entendu que toute la débâcle de la France venait des cadeaux du Front Populaire et que ceux qui ont tout foutu en l'air, c'est les Juifs et les francs-maçons. Enfin, on sent que c'est imprégné dans l'idéologie. Il y a des personnages qui incarnent ça, qui sont prêts à collaborer, qui comptent faire des affaires et puis c'est tout.
Ah, il y en a,
La vision politique que vous donnez à les personnages sont complètement réalistes.
J'espère bien. C'était mon but. Oui, effectivement. Il y a un collabo. Il y a des gens qui ne sont pas très recommandables.
Oui, eux, ils s'en vont pas.
Ah, non.
Ah, ils laissent pas tomber l'auberge. Eux, ils accueillent les nouveaux arrivants qui ont du pouvoir d'achat.
Ah, bien sûr. Ce qui compte, c'est les sous.
Et on passe donc de la décennie des années 30, le début professionnel d'Odette, si on peut dire à la débâcle, au fait qu'elle quitte sa région de Haute-Saône pour venir dans le Quercy.
Oui.
Et en parallèle, Sylvie qui lit cette histoire-là, qui la découvre et qui s'aperçoit que non seulement elle avait raison de considérer Odette comme une grande amie, mais en même temps d'avoir cet attachement qu'on peut pas définir simplement avec des mots jusqu'au happy end, on peut le dire, ça finit bien, puisque c'est dans le titre, c'est l'héritage. Alors la vengeance, on se dit qu'il y a des choses à juger quelque part.
Oui.
Il y a des choses qui n'ont pas été jugées et qu'il faut juger.
Absolument.
Bon, alors en termes raccourcis dans un titre, ça s'appelle vengeance. Mais alors l'héritage, on sent bien que Sylvie va hériter de tout, y compris. Alors ça c'est très fort, y compris de sa propre identité.
Ah.
Alors ça c'est très très fort.
Merci.
L'héritage de vengeance, le dernier roman de Danny Boisset, 17,50 €, c'est un partenariat avec CFM. Ça sera dédicacé par l'auteur, Danny Boisset, samedi matin à la médiathèque de Caylus, mardi matin chez le marchand de journaux, Madame Marie-Françoise Baroul. Vous serez à Najac samedi après-midi.
À la bibliothèque de Najac, oui, samedi après-midi.
Votre livre, on pourra le trouver donc chez Marie-Françoise Baroul, au dépôt presse de Saint-Antonin-Noblevin.
Exact.
À la librairie de Loche à Montauban.
Oui.
À Villefranche-Rouergue, dites-moi.
La librairie Barthes.
D'accord.
Barthes de Villefranche de Rouergue.
Et on peut de toute façon vous le commander.
Absolument, absolument.
En faisant, redites-moi votre adresse email.
Un seul mot tout attaché. Danny Corner House, DANICORNERHOUSE, @wanadoo.fr.
Et là, on vous demande d'envoyer un ouvrage à tel endroit, vous entendez sur le règlement, tout ça, je ne sais pas. Sinon, on peut commander vos autres ouvrages chez l'éditeur.
Chez l'éditeur, hein, ce sont les presses littéraires. Lespresseslittéraires.com, j'imagine.
Voilà. Oui. L'héritage d'une vengeance, lui, c'est Souvenir de France. Et on peut vous écrire, on peut le lire.
Et j'aimerais bien d'ailleurs que les gens m'écrivent. J'ai reçu une lettre l'autre jour, mais là c'était de quelqu'un en Franche-Comté qui m'a dit presque ce que vous venez de me dire là à l'instant. On reconnaît les endroits, on connaît les établissements que vous mentionnez. Je connais l'auberge en question parce qu'elle est là, elle est vraiment là. Il n'y a pas de trésor dans la cour. Non. Enfin, voilà. Donc ça me fait plaisir si les gens m'écrivent, même si c'est pour me dire qu'ils n'ont pas aimé, parce qu'après tout, ça aussi, c'est important de le savoir.
Danny Boisset, je vous remercie.
Merci, Joanne.
Le mag, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi, même heure, même punition. Ciao, ciao. Passez de bon après-midi à l'écoute des programmes de CFM. Soleil.